Alors Radio Barque, la 24e et la 3e partie, donc, a pour invité, comme je l'annonçais tout à l'heure, Alain Perea, donc, qu'on ne présente plus parce que vous êtes déjà venu un certain nombre de fois, et puis surtout, vous avez été élu au printemps dernier, député, donc, En Marche. Alors, Alain Perea, maintenant, ça fait quelques mois, vous avez une certaine expérience de la chose, vous allez pouvoir nous en dire probablement un petit peu plus. Je commencerai par faire une petite exception. Vous rentrez d'un voyage d'observation en Égypte à propos des élections.
Oui, tout à fait.
Et alors on va faire une toute petite exception dans la mesure où on va parler un peu de politique étrangère, ce qui n'est pas habituel ici. Donc vous êtes parti là-bas observer ce qui se passait pour l'élection. Vous étiez en mission parlementaire.
Effectivement, puisque je suis membre de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée, qui regroupe des parlementaires de tous les pays méditerranéens, lorsqu'il y en a, parce qu'il y a encore des pays où il n'y en a pas. Et dans ce cadre-là, le président de cette Assemblée, qui est Pedro Roque, qui est un Portugais, ancien ministre portugais, bien sûr, m'a sollicité pour l'accompagner dans cette mission, qui était une mission d'observation. Alors, soyons clairs, le déroulé des opérations de vote se sont passées dans d'excellentes conditions. J'ai même presque envie de dire qu'ils sont un peu en avance par rapport à nous, puisqu'ils ont même une application smartphone qui leur permet d'avoir, qui remplace la carte de vote.
Donc on vote par smartphone?
Non, on ne vote pas par smartphone, mais quand on arrive, on retrouve son numéro de vote et autres. Mmh. Et donc les élections durent 3 jours. C'est une vraie fête. Hein. Et nous avons constaté, on a fait beaucoup de bureaux de vote, que les élections se passaient dans de bonnes conditions. Pourquoi? Et c'est là où il y a un bémol. Tout simplement parce que avant les élections, je vais essayer de le dire de manière un petit peu diplomatique, les candidats doivent passer devant une commission, et cette commission n'avait retenu qu'un seul candidat, le président sortant.
Voilà,
donc, il serait après un peu fort que lorsque ce sont des observateurs étrangers qui viennent, en plus, ils se permettent de fausser les opérations de vote. Ce qui est intéressant, ce qu'il faut retenir, c'est 2 choses. Un, en qualité de député au niveau national, la France est présente en Égypte, qui est une clé et une des portes d'entrée d'un équilibre dans cette région-là. Et donc c'est important que la France y soit, et je suis honoré d'y avoir participé. La deuxième chose, c'est, et là je me remets plus au niveau audois, c'est que je contribue et je commence à lier des partenariats et des liens afin de pouvoir exporter nos savoir-faire et faire parler de nos territoires. Mais on aura sûrement d'autres occasions d'y revenir.
Oui. Alors justement, à propos de ces pays, très souvent, la politique française, parfois avec une certaine arrogance, se permet de juger, de donner des leçons. Bon, vous qui rentrez de ces pays-là, vous avez employé un mot qui me semble important, c'est le mot « équilibre ». Quand on sait qu'en voulant importer de force la démocratie chez certains pays, en fait, on fout la panique complète, si vous me permettez l'expression. Quel est votre sentiment? Vous vous dites finalement, c'est le moins pire qui se passe là-bas ou quoi?
Alors, j'ai eu quelques questions fort légitimes sur de quel droit, mais c'était gentil, hein, de quel droit allez-vous...
S'immiscer
Alors, il faut savoir que c'est eux qui le demandent. Pourquoi? Tout simplement parce que ça leur sert un petit peu de caution. En disant, vous voyez, tout se passe bien, mais nous ne sommes pas dupes.
Ça embellit leur image.
Bien sûr, mais nous ne sommes pas dupes, hein, et on sait très bien que l'on contribue, encore une fois, à être là dans un jeu d'équilibre et de rôle qui contribue à tout cela. Ce que je voudrais dire, c'est que les Égyptiens admirent la France et aiment les Français. Et partout où j'allais, à chaque fois que je disais français, la France, c'était des sourires, c'était véritablement un regard et de à la fois bienveillance, mais je veux peut-être pas employer le mot amour qui est un peu fort, mais en tout cas, il y a un lien étroit avec ce pays, et je crois que on se doit les uns et les autres de continuer à entretenir à chacun à nos niveaux des liens et contribuer au rayonnement de la France. Voilà. Ça me paraît vraiment, vraiment important.
Voilà, sans vouloir parler de démocratie à tout prix, en tout cas selon notre conception occidentale, c'est peut-être là où le bât blesse, c'est que chacun a sa conception des choses.
On a été reçu par le ministre, enfin c'est le vice-ministre des Affaires étrangères, Bon, on a discuté de tout un tas de choses, mais bon, on est rentré assez loin dans les dossiers. Je ne peux pas forcément en parler là, mais il y a Israël qui est pas loin, il y a la Palestine. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont en jeu. Voilà. Et on peut pas comme ça avoir une vision très très française, hein, parce que on n'en est pas au même moment de notre histoire. On n'en est pas, voilà. Et donc j'étais honoré de participer. J'ai appris beaucoup de choses. Et encore une fois, j'insiste, c'est un pays qui aime la France, et les Égyptiens sont des gens adorables, et ils ont envie que les Français reviennent dans leur pays.
Voilà. Et puis dans ce Moyen-Orient compliqué, c'est un pays actuellement stable. Je crois que c'est peut-être une des choses. Voilà.
Après, la stabilité a un prix, et je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont horrifiés.
Ah, bien entendu.
Mais, et je peux le comprendre aussi.
Voilà. Mais la stabilité a un prix. Vaut-il mieux l'Égypte ou la Libye?
On arrive au bureau de vote avec, il y a quand même l'armée, hein, qui est devant le bureau de vote, Kalachnikov, casque et gilet pare-balles. Hein,
c'est ça.
On peut se le dire, quoi.
Voilà, il faut dire les choses avec franchise. À propos alors de démocratie, à notre façon, revenons chez nous, il n'y a pas très longtemps, la presse écrite, notre confrère L'Indépendant avait évoqué les prochaines municipales. Vous avez forcément posé une question à vous aussi. Et vous aviez laissé entendre qu'éventuellement, vous seriez partant. Qu'en est-il ?
Ben, depuis, les choses n'ont pas particulièrement évolué, si ce n'est que cet article a suscité beaucoup d'interrogations, et beaucoup de personnes sont venues me voir en me disant si tu pars ou si vous partez, on est avec vous. Voilà. Alors, quelle que soit la personne qui était dans le journal, là, si vous lui posez la question, il va vous répondre pareil. Hein, voilà. Et il y en a même peut-être certains qui sont allés voir les trois candidats en leur disant « si vous partez, on sera avec vous ». La seule chose donc que je voudrais dire, et qui peut-être me différencie des autres, c'est que moi, je suis pas sur une personnalisation. C'est pas « moi, je serai candidat et qui même me suive ». Voilà. Nous, on est sur une approche, comme j'avais pu l'expliquer, on est sur une approche de projet. Nous sommes sur une approche de « quel avenir pour Narbonne ?» Quel avenir pour la Narbonnaise? Aujourd'hui, moi, je vois rien. Voilà. Dans les candidats qui sont en place, hein, ou ceux qui se trucs, je les connais en plus. Je ne sens pas une vision. Je ne sens pas une vision de la Narbonnaise. C'est une addition de projets où on reprend les dogmes ou les vieilles pensées, et on veut essayer de les reproduire. Bon, voilà. Moi, j'espère qu'on va pouvoir porter là pour la Narbonnaise un projet. Après, on se rejoindra peut-être les uns ou les autres. Il faut pas. Je l'avais déjà dit d'ailleurs quand j'étais venu sur la question des législatives, et j'avais appelé à une union qui n'a pas pu avoir lieu parce que on a des gens qui sont arc-boutés. Et là, moi, ce que j'aimerais, c'est effectivement qu'on travaille sur un projet. Et c'est ce que nous avons déjà commencé à faire, comme j'ai déjà pu le dire.
Oui, mais ça signifie de façon très concrète que vous seriez prêt, je dis bien seriez au conditionnel, prêt à troquer votre poste de député pour celui de maire, puisque il n'est plus possible d'avoir les deux.
Alors moi je troque rien. Je troque rien. C'est-à-dire que pour moi, je pense que les auditeurs, enfin en tout cas ceux qui me suivent là, le savent, Narbonne, la Narbonnaise, c'est ce qui m'anime. Ce qui m'anime. Après, je viens de vous le dire, je vais en Égypte, je suis content de participer et de contribuer aussi à tout ce que je peux faire au niveau national. Mais ce qui m'anime, c'est Narbonne, et c'est la Narbonnaise. Voilà. Donc, je le dis en toute tranquillité, moi je ne troquerai rien. S'il faut rentrer sur le terrain et s'il faut y aller, j'irai avec un seul objectif, c'est Narbonne. Sinon, vous savez, je pourrais rester député jusqu'à la fin de mon mandat, hein, qui va au-delà.
Normalement,
donc,
oui.
Donc ça. Je suis, voilà, ça se fera tranquillement, on ne bouscule rien, et surtout, je sors de cette approche ou de cette posture qui est de dire oui, moi je suis candidat et je veux y aller à tout prix.
Oui, bon, wait and see, c'est prématuré. Par contre, aujourd'hui donc vous êtes député, ça c'est clair, vous travaillez sur pas mal de dossiers. J'aimerais qu'on en évoque quelques-uns. Il y en a un qui est cher au cœur de Michel Santos, c'est les centres-villes, la réhabilitation des centres-villes. C'est un dossier sur lequel vous avez, je crois même, des responsabilités nationales, Alain Pereira.
Oui, puisque je suis vice-président de la commission aménagement du territoire. Je rappelle, il y a huit commissions à l'Assemblée nationale. Il y a huit présidents. Barbara Pompili, Wörth, enfin bon, ce sont des gens qui ont un CV. Et après, chaque fois, il y a deux vice-présidents. Voilà. Donc on n'est pas 50 000 à ce niveau de... Et ça me paraît important parce que dans l'ordre, on a eu toute une histoire. Voilà, mais sur ces niveaux de responsabilité, on n'y a pas souvent été. Voilà. Et donc là, je me retrouve en première ligne sur ces questions-là. Et bien en amont, j'ai su qu'allait sortir un texte sur les rénovations des centres-villes, sur les opérations de centres-villes. Et il me semblait important, même nécessaire, que Narbonne en fasse partie. Voilà. Alors après, il y a une configuration qui est celle que tout le monde connaît, entre Narbonne et la communauté, la ville et la communauté d'agglomération. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de réunir les deux exécutifs et de leur dire, pour l'intérêt de Narbonne, il faut que les trois, on soit ensemble. Et ça a marché parce que je crois que chacun pense ce qu'il veut des uns et des autres, mais il y a cet enjeu de Narbonne qui nous paraît important, et donc on s'est réunis là-dessus. Voilà. Et pas plus tard que hier soir, même une partie de la nuit, nous avons travaillé sur ce qui va s'appeler les ORT, hein, donc ça va être les opérations de revitalisation, qui va être l'outil juridique qui va être le support donc des fameuses opérations de rénovation de centre-ville. Voilà, donc je travaille de manière législative sur ce dossier-là, et ça me permet de mettre à la fois en œuvre mon expérience, d'apprendre aussi hein, au contact des ministères, des autres députés bien sûr, tout en gardant un regard avec beaucoup d'intérêt sur ce qui se passe à Narbonne.
Voilà, mais donc, oui, juste un petit mot, Michel.
Oui, simplement pour signaler que ce genre de programme ou d'action proposé par l'État et qui nécessite la coordination de l'agglo, en fait, et de la ville, tombe, si je puis dire, relativement bien, puisque depuis qu'un certain temps, on a chroniqué ici là-dessus, en fait, Jean-Claude, hein, les relations entre l'agglo, en fait, et la ville se sont très adoucies.
Oui,
hein,
on peut dire
les choses comme ça. Et que, pour une raison simple, c'est que ni Jacques Bascou, qui n'est plus maintenant prétendant à quelques mandats que ce soit, enfin, et Mouly qui lui espère
lui qui est, espère, lui qui est partant,
espère, qui est... espère effectivement continuer pour la suite, bon, ont intérêt, oui, les ouais. deux, bon, à ce que ça se passe bien. Mm-hmm. Donc effectivement, voilà, cela dit, reste maintenant à voir le contenu concret de ces programmes.
Voilà, mais enfin, il y a des financements annoncés, c'est déjà ça.
Ah oui, c'est ça. Oui.
Non, il y a une enveloppe de 5 milliards d'euros hein, qui
sur
a été fléchée.
Sur 5 ans. Ça fait en moyenne 1 milliard par an.
Oui, mais derrière, c'est la première fois depuis 1974 que le gouvernement met en place, enfin qu'un des gouvernements met en place une opération pour les villes de cette taille-là.
Voilà. Oui.
Il était temps, parce que quand on regarde l'état des centres-villes en France, on peut l'expliquer au travers d'un certain nombre de choses, mais c'est pas forcément l'objet là aujourd'hui. Et le défi que nous avons à relever, c'est d'imaginer quels seront les centres-villes de demain. C'est un vrai défi, parce qu'on ne peut pas non plus vivre dans la nostalgie d'un centre-ville.
Oui, dans la société d'aujourd'hui.
Voilà, exactement. Et donc, c'est ce défi, et là, moi, c'est passionnant, quoi. C'est une aventure passionnante. Aujourd'hui, je vois pas, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, véritablement, là, des choses qui avancent de manière intéressante. Voilà. Mais je pense qu'on va y arriver.
Oui. Une question, alors, peut-être d'intérêt national. On va parvenir sur les Bernardins. Mais Alain Perrier, donc, vous êtes député. Vous êtes très souvent à Paris au Parlement, dans les sphères gouvernementales. Monsieur Macron, aujourd'hui, comment... Alors, on va vous demander votre ressenti personnel. Mais comment... moi, je me pose la question, lorsque je le vois agir, est-ce qu'on est parti vers une politique de Girondins ou de Jacobins, comme ça a été longtemps le cas ? J'ai l'impression qu'on est encore un petit peu Jacobin. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes attaché au territoire ? Question délicate, peut-être.
Non. pas pour moi. Moi, je crois que la volonté profonde, c'est d'aller vers... plus de responsabilités, plus d'autonomie et plus de liberté dans les territoires. Donc, on est quand même sur une approche plutôt girondine. Mais nous avons quand même une histoire dans ce pays et une histoire qui génère un certain nombre de fonctionnements et de réflexes. Moi, c'est tous les jours, que je me bats contre ces réflexes. Quand je vais dans les ministères... J'ai en face de moi des personnes, donc ce sont de l'administration française. Hein. Et encore une fois, je les critique pas parce que je suis aussi issu de l'administration française. Mais je sens que c'est encore un discours qui n'a pas évolué.
Oui, dans leur ADN, il y a toujours Français, ce jacobinisme.
Mais oui, et puis je tiens à rappeler aussi que un des principes fondamentaux de l'administration française, c'est justement d'assurer la continuité. C'est pour ça qu'il y a aussi un statut et compagnie pour les fonctionnaires, d'assurer la continuité. Et donc, partant de là, eux, ils sont véritablement dans un rôle qui est d'assurer une continuité. Et on se retrouve, nous, avec une approche qui a été radicalement différente et que personne n'avait vu venir, y compris l'administration française. Et donc, ils se retrouvent là, des fois, avec des députés, et c'est mon cas, mais je leur dis, mais oui, on a fait ça depuis 30 ans. On va plus le faire à partir d'aujourd'hui. Voilà. Sauf que c'est un combat terrible. Et donc nous avons beaucoup d'inertie parce que il y a, on le sait bien, un centralisme dans le fonctionnement de l'administration. Et nous, on est en train de se battre et au quotidien, on nettoie les textes pour essayer de donner plus de force et de liberté au territoire. Encore faut-il qu'ils sachent s'en saisir. Et là, il y a certaines postures politiques.
Qu'ils sachent
ou qu'ils veuillent. Il y a certaines postures ou attitudes politiques qui, à mon sens, sont dérangeantes. Voilà. J'ai encore vérifié là récemment. Nous avons annoncé que les dotations aux collectivités territoriales ne baisseraient pas. Bon, donc on a tenu cet engagement et que ce soit les mairies, le département, les dotations ont soit été maintenues, soit elles ont légèrement augmenté. Personne n'en parle.
Oui,
et on préfère continuer à taper sur le gouvernement en disant que c'est un scandale tout ce qui se passe et autres. Or, pour la première fois depuis des années, nous donnons au territoire la possibilité de maintenir et de continuer leur politique publique. Voilà, donc, à un moment donné, il va falloir que ce soit aussi gagnant-gagnant.
Oui. À propos de la réforme, alors dite institutionnelle, la réduction du nombre de parlementaires, etc., est-ce que pour vous, qui est forcément concerné, puisque député, il y en aura moins. Est-ce que ça vous semble aller dans le sens souhaité?
Alors, d'abord, et je suis clair, pendant la campagne, on devait me poser 10 fois par jour la question « Est-ce que vous voterez la réforme ?» Voilà. Et je disais toujours oui. Maintenant que je suis élu, je ne vais pas faire comme ça se faisait dans le passé, trouver 50 000 excuses pour dire « c'est pas voilà ». Donc à la marge, il y a certaines choses que l'on va discuter. Style limiter le nombre d'amendements, François de Rugy s'est déjà positionné. Ça me dérange parce que je pense qu'il faut qu'on puisse travailler. Par contre, diminuer, hein, c'est un petit peu le nerf de la question là par rapport à diminuer le nombre de députés me paraît aller dans un sens qui est celui sur lequel nous nous sommes engagés, et donc je n'ai aucun souci là-dessus. Je voudrais juste dire...
De députés et de sénateurs.
Oui, bien sûr.
Non, mais les parlementaires, oui, mais en général.
Je me suis limité aux députés parce que je n'ai pas envie de donner un avis sur le Sénat. Voilà. Parce que moi, sur le Sénat, je serais allé beaucoup plus loin. Donc je referme la parenthèse.
Oui, qui freine des quatre fers, apparemment,
bien
le
sûr,
Sénat.
Bien sûr, bien sûr. Non, je voudrais juste dire quelque chose qui me paraît important. Les Français ont voulu qu'il y ait moins de députés. Bon, donc il y aura moins de députés. Si dans l'Aude, nous restons à 2 députés, il faut que les auditeurs comprennent que la circonscription ira à peu près de tout le littoral jusqu'à l'entrée de Carcassonne, voire une partie de Carcassonne. Donc la proximité que l'on essaye d'avoir, être présent aux matchs de rugby, aux inaugurations, recevoir les gens et autres, où que ce soit en France, c'est fini. Et là-dessus, j'y rajoute une deuxième chose. C'est qu'il va y avoir des députés qui vont être élus à la proportionnelle, 60 à peu près. Ces députés n'auront plus de circonscription. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils seront toute la semaine à Paris, à travailler à l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire qu'eux, ils feront des réunions, ils feront des textes, et chaque fois qu'un député de la Narbonnaise ou de l'Aude reviendra en circonscription, il ne sera pas en train de travailler avec ses collègues à Paris. Et ce qui veut dire que si on veut avoir un député qui travaille dans le travail législatif, on n'aura plus, à terme, des députés dans les territoires. Voilà. Mmh. On ne les verra quasiment plus et nous serons en permanence à Paris. Ce qui veut dire que, oui, moins de députés, mais la relation du député avec le citoyen et, in fine, avec sa circonscription va grandement évoluer.
Voilà. Enfin, il faut donc se prévoir et s'habituer à une nouvelle existence, peut-être un nouveau lien avec les députés. Voilà. Pour
moi, entre parenthèses, me va très bien. Quoi, oui, parce que le reproche que je peux faire aujourd'hui, justement, aux députés, en général, c'est de se comporter comme des représentants d'un territoire, ce qu'ils ne sont pas.
X fois, voilà.
Oui, mais alors là, je voudrais quand même dire un truc.
En conclusion.
Je suis tout à fait d'accord, Michel, avec ta remarque. Nous devons être des députés du département, tu le précises, mais de la France. Voilà. Oui. Sauf que, voilà. Moi, je rencontre 90% des personnes que je rencontre à Paris, voilà, ils ont un fonctionnement purement parisien. C'est-à-dire que je le vis au quotidien, et c'est pas une critique des Parisiens, c'est que la façon dont ils raisonnent. Je vous donne juste un exemple. Quand on est député de Paris, voilà, on n'a pas d'association dans sa circonscription. Voilà, on n'a pas d'association dans sa circonscription. Et donc, quand on commence à aborder le problème des associations et compagnie, ce sont des choses qui leur échappent complètement. Quand on regarde les enjeux, par exemple, de la circonscription qui est la mienne, entre les enjeux du littoral, les enjeux de la ville de Narbonne, les enjeux des quartiers, les enjeux de l'arrière-pays, les enjeux de la viticulture, on est sur un cocktail. On est sur un cocktail que les députés qui passent leur temps à Paris n'ont pas et ne maîtrisent pas, et donc ils n'ont pas une façon de concevoir la loi de la même façon. Voilà, et donc c'est un point sur lequel il faudra quand même regarder.
Voilà, merci en tout cas pour ce témoignage et cette expérience vécue, Alain Perea. Et merci d'être venu.
Merci de votre invitation, et je viens toujours avec plaisir.
Voilà, et à une prochaine fois, puisque j'espère que vous serez député encore pendant un certain temps, de toute façon, jusqu'à la fin du mandat. Donc, à très prochainement. À propos de prochain, justement, les prochains invités, nous recevrons Didier Mouly, maire de Narbonne. Après quoi, nous recevrons le maire de Mayac, monsieur Gérard Chivardi, et puis Marie Batte pour le Salon du Livre, et puis Jacques Bascou un petit peu plus tard, etc., etc. Les invités ne manquent pas. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine.